L'œil politique passe à la loupe, les grandes questions actuelles. Témoignages, opinions, analyses. L'équipe vous retrouve le premier lundi du mois, de 19h à 20h, pour penser les enjeux politiques qui agitent la société. L'œil politique, c'est tout de suite sur Prune, 92 FM et prune.net.
Bonjour à toutes et tous, chers auditeurs. On se retrouve pour le deuxième épisode 2024 de L'Œil politique, votre émission critique et engagée qui décrypte les grandes questions politiques et d'actualité. Tous les premiers lundis du mois, en direct. Bon, sauf quand l'émission tombe le 1er janvier, parce qu'il ne faut pas déconner quand même. Je suis Seb et je vais tenter d'animer cette émission aujourd'hui. Je suis accompagné de Gabi, plus incisif que l'attaque du FC Nantes. Bon, en même temps, en ce moment, c'est pas très difficile, on va pas se mentir.
Ah, cette balle perdue.
Bref, il nous régalera de ses punchlines pour son billet d'humeur. Bonjour Gabi.
Et bonsoir, bonjour.
De Suvan à la technique, qui a posé son appareil photo le temps de venir filer un coup de main pour s'occuper de la réalisation de l'émission. Bonjour Suvan.
Salut.
Il est vrai que dans le monde d'après, dans le Wokistan, comme certains s'amusent à dire, on présente plutôt les femmes en premier, mais j'ai préféré garder la meilleure pour la fin, car grande nouvelle, l'équipe de L'Œil politique s'agrandit et accueille Perrine. Bonjour Perrine.
Merci pour cet accueil, Seb.
Les plus fidèles de Prune la reconnaîtront peut-être, puisqu'elle nous vient en provenance de Curiosité. Tout le monde a essayé de la recruter, France Inter, BFM, même le Qatar a tenté sa chance. Mais non, c'est bien L'Œil politique qu'elle a choisi de rejoindre lors de ce mercato d'hiver.
The best.
Venons-en au sommaire de cette émission. Perrine s'entretiendra avec notre invitée du jour, Tiffaine, étudiante et militante au Gazprom, qui est une association de solidarité avec les travailleurs immigrés de Nantes. Bonjour Tiffaine.
Bonjour, on vous remercie beaucoup pour l'accueil du coup.
Ah bah c'est un plaisir. Elles échangeront sur la récente loi Asile et Immigration. Gabi, qui nous parlera des débuts d'Amélie Oudéa-Castéra, notre nouvelle... Je prends un peu d'élan parce que... ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des Jeux olympiques. N'est-ce pas un peu beaucoup pour une seule personne? Oui, peut-être. N'empêche, on voit bien qu'on n'est pas égalité. Nous, si on traverse la rue, on a plus de chances de se faire écraser que de trouver quatre boulots d'un coup. Avant de commencer cette émission, je vous propose un petit tour de table. Qu'est-ce qui vous a marqué dans ces premières semaines de 2024 en politique? Vous battez pas, hein, c'est pas comme si on avait une heure à combler.
Ouais, moi du coup, ce qui m'a pas mal interpellé, c'est ce remaniement dont je vais parler dans ma chronique plus tard, donc je vais pas plus m'épancher que ça. Mais on a quand même quelque chose d'alarmant, aussi bien sur le fond que sur la forme, parce qu'on est, on est en retour des années en arrière. Et voilà, c'est un peu... En fait, on est sur la même lancée. Je me souviens en décembre avoir dit que j'avais aucun optimisme pour 2024, que ce serait pire.
Et c'est pire en pire.
Et j'ai bien l'impression que je vais pas me tromper.
En deux semaines, c'était déjà plié, quoi.
Ouais.
Ouais, clairement. Non, mais réarmement et tout ça, là.
Oui, le réarmement...
démographique.
Mais pas que démographique, c'est le discours général du gouvernement, c'est... sur des termes martiaux, le réarmement, on veut des petits soldats dans les écoles, on veut fasciser le pays un peu plus encore chaque jour. Et j'ai l'impression qu'on se renouvelle. En fait, on pourrait mettre l'émission d'il y a deux mois, que ce serait pas choquant, en fait.
Moi, j'ai une petite note d'espoir quand même, parce que là, ce soir, on va parler d'un sujet, alors certes, n'est pas gay, mais le Conseil constitutionnel a fait son job. Pour une fois, il est... Voilà, moi, il me déçoit pas trop. Et je me dis qu'on a quand même des institutions qui font leur boulot et qui, de temps en temps, vont dans le bon sens.
Oui et non. Enfin, moi, j'ai mon petit avis sur la chose. Après, je sais pas si ça va être facilement partagé, mais il y a beaucoup d'articles où il aurait pu se prononcer sur... l'irrecevabilité sur le fond, et en fait ils se sont juste focalisés sur la forme en disant que c'était
cavaliers législatifs.
Voilà, ouais, cavaliers législatifs.
On va en discuter tout à l'heure. Bon,
je veux pas avancer le débat.
Ouais, mais je trouve que c'était une bonne manière de dire à la commission mixte paritaire qu'en fait ils savaient pas écrire une loi, et
oui.
Que si on respecte pas l'article 45 de la Constitution, en fait il faut pas écrire des lois.
Oui, oui, il y a quelques décennies encore, pour un parlementaire, c'était une honte de se faire refuser une loi par le Conseil constitutionnel. Et alors aujourd'hui, on essaye, et si ça passe, ça passe. Si ça passe pas, tant pis, on aura essayé.
Alors que c'est quand même leur boulot.
Oui. Ouais.
Et puis il y avait un truc, enfin moi ce que j'ai entendu, c'est que du coup, c'est hyper... Enfin, ça en dit long sur le dysfonctionnement qu'il y a actuellement, de le gouvernement fait une loi en sachant qu'elle va être retoquée par le Conseil constitutionnel. Du coup, bah, ne la fais pas, enfin, ne fais pas ce que tu sais que ça va être refusé. Enfin,
il voulait pas porter la charge.
C'est accentuer un dysfonctionnement démocratique qui est déjà énorme. Et du coup, c'est vraiment, c'est s'auto-saborder en fait un peu.
Ouais, tout à fait. Moi, je voulais juste essayer d'apporter une note positive à ce début d'année.
T'as raison.
Après, le questionnement, c'est pourquoi ils font ça, puisqu'ils le savent. Est-ce que c'est parce qu'ils veulent une révision de la Constitution ou est-ce que c'est pour se décharger de tous les problèmes?
Un peu les deux.
Bah, ils ne voulaient pas censurer les sénateurs de droite, je pense.
Pour moi, le plus inquiétant, ce serait cette idée de réforme de la Constitution. Et ça ne me paraît pas impossible. Et ça me paraît être surtout une rampe de lancement pour l'extrême droite dans cette idée-là. Mm. Donc encore une fois, je viens rajouter un peu de pessimisme. Je suis désolé.
Tiffaine, est-ce que tu veux partager un petit avis sur cette magnifique début d'année politique?
Bah oui, bien sûr, il y aurait tant de choses à dire, mais une des choses qui m'a le plus, je pense, dégoûtée, c'est l'augmentation du salaire des députés, des sénateurs, il me semble, de 600 euros par mois. Voilà, au plaisir.
Alors, les sénateurs, c'est 700 euros par mois, les députés, 300.
300, c'est ça.
Ouais. À l'heure où Gabriel Attal appelle à désmicardiser le pays, on peut se dire, c'est en augmentant les salaires? Non, c'est en baissant le SMIC.
Merci pour ce brin d'espoir à nouveau, Gabi.
Oui, je me suis, comme je disais hors antenne, je me suis tapé le discours de politique générale d'Attal et puis des analyses et tout ça. Je suis au plus profond du pessimisme.
C'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose de réjouissant. Enfin, en ce moment, je suis un peu dans un mood très, très pessimiste aussi. Et, tellement d'événements et de décisions politiques absurdes que j'en viens à me détacher de tout ça juste pour conserver un minimum de vitalité mentale, quoi, parce que c'est trop archi-pesant, quoi.
Ouais. Si, il y a un événement positif.
Gabi, on t'écoute.
La révolte des paysans, des agriculteurs. Après, il y a la FNSEA, ça...
On a vu la finalité, quoi. Les mecs sont allés chercher un baril de glyphosate à l'Elysée, ils ont fait demi-tour, quoi.
La FNSEA, oui, mais le mouvement n'est pas encore terminé. Il y a des routes qui sont encore bloquées, il y a encore des actions qui se passent par la Confédération Paysanne.
Voilà, c'est la Confédération Paysanne.
Oui. Mais
qui se fait déloger par les forces de l'ordre.
Contrairement à la
FNSEA. Oui, parce que leur colère n'est pas légitime et eux ne travaillent pas.
C'est ça.
Darmanin... Évidemment, qui, je pense, est très déçu de ne pas avoir été Premier ministre et qui, du coup, redouble d'efforts pour faire parler de lui. Mais ça reste... on sent qu'il y a quelque chose et que ça peut péter à tout moment. Alors, quand ? Moi, j'ai hâte de voir ce que ça va donner aux Jeux Olympiques. Mais...
potentiellement, ça pourrait être peut-être un déclencheur si ça devient une catastrophe avec les faux bénévoles, pas faux bénévoles, mais
oui, ceux qui sortes
de sabordage en interne, machin, tout ça, ce genre de choses. En plus des scandales qu'il y a, potentiellement, ouais.
Moi, c'est le seul espoir que j'ai en cette année. C'est les Jeux Olympiques.
Vive le sport.
Surprune.
Surprune. Merci d'avoir partagé vos colères du moment. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose d'écouter Tina, une talentueuse rappeuse nantaise, avec le titre Le bruit et l'odeur. C'est tout de suite.
Ok. Je pisse sur vos valeurs de France républicaine. Ni le vice ni l'odeur de cette engeance n'est la mienne. En revanche, je suis née ici et c'est marrant, je l'ai pas choisi. Pourtant certains me disent que cela justifie d'être fier d'une race caucasienne. Qu'aucun ne vienne me causer de leur suprématie. Car de Dakar jusqu'à Cayenne, le même sang coule dans nos veines. La même haine pour nos maîtres nous mènera à les détrôner. On nous parle des problèmes de cité, on s'intéresse jamais aux causes enracinées. Sans citer notre passé, on ne fait que susciter la cécité des habitués de tous les plateaux télé. Hein. Quand on les parque dans les camps, les quartiers, quand les épargnes des plus grands se mettent à craquer, La violence naît des tours, se manifester après. On nous parle d'égalité gâtillée dans ton pays, des droits de l'homme après avoir navigué sur la Méditerranée. Tu seras condamné à livrer pour Uber Eats sur un scooter. À des petits blancs qu'oseront te parler du bruit et de l'odeur.
Si vous ajoutez à cela le bruit et l'odeur, et l'odeur, eh bien, le travailleur français sur le panier devient fou.
Nos bords de nos masters, crois-moi, on va pas se taire. Cette terre sur le paternaster te met à terre, dommage. Trop tard pour le phaser, hommage à tout ce rêvant d'un ailleurs. Nos bords de nos masters, crois-moi, on va pas se taire. Cette terre sur le paternaster te met à terre, dommage. Trop tard pour le phaser, hommage à toutes celles rêvant d'un ailleurs. Le bruit et puis l'odeur des porcs qui nous gouvernent, c'est quand je vais en hauteur que la puanteur m'atteint. Et elle vient pas de chez Mustapha, mon cher voisin, mais elle embaume mon quotidien. Là, du soir au matin, un peu la suffisance des gens qui sont nés quelque part. Quelque part, y'a que des barges quand ils débarquent armés de leur pack de survie. Et qu'on leur dit qu'y'a rien pour eux ici, la solution est pourtant simple. Passons à la géométrie, théorème de Pythagore, A et B plus A et C égale B. Dans mon CD, facho plus con égale décès. Tous obsédés par la CB, pas question de leur céder, ça fait assez AB. Je vous refais l'alphabet, il ne suffit pas d'un barillé pour éloigner les immigrés. Pour des bras bon marché, ça bronchait moins dans les troquets. Bah ouais, ta terre d'accueil tant convoitée, désormais s'appellera Calais. Le sens-tu, l'entends-tu? Le bruit et puis l'odeur d'un pays colonialiste, le fruit de la sueur d'une gouvernance fasciste, le bruit, la puanteur du syncapitalisme. À quand le coup de car, cher des vrais voyous en costard? Quand courent mes frères qui accostent illégalement? Où vont-ils se réfugier quand dans la nuit il se fait tard? Peut-être dans nos camps aux airs de vieux régime allemand. Ya, que voulez-vous que je vous dise? Comme Kerry, j'ai peur quand je relis ce que j'écris. Je veux que ça devienne notre devise, ayons l'âme insoumise. Welcome all refugees. De nos masters, crois-moi, on va pas se taire. Cette terre sur le paternaster te met à terre, dommage. Trop tard pour le phaser, hommage à tout ce rêvant d'un ailleurs. Nos bords de nos masters, crois-moi, on va pas se taire. Cette terre sur le paternaster te met à terre, dommage. Trop tard pour le phaser, hommage à toutes celles rêvant d'un ailleurs. Hommage, hommage à toutes celles rêvant d'un ailleurs.
De retour sur Prune 92 FM, vous êtes toujours sur l'émission L'œil politique. Aujourd'hui, nous parlons de la loi Asile et Immigration. C'est la première partie du grand entretien.
C'est l'heure de l'interview. Place à nos invités pour analyser la question politique de l'émission.
Si je vous dis société anonyme russe, connue principalement pour l'extraction, le traitement et le transport de gaz naturel, eh bien ce soir, je reçois son homonyme et c'est devenu courant dans les associations de faire du détournement de sigles. Cela permet ainsi de les remplacer par des initiatives vertueuses. Car c'est bien du Gazprom dont il s'agit. Mais ce Gazprom-là, avec un S et non avec un Z, c'est le groupe d'accueil, de solidarité, de partage, de révolte pour l'ouverture du monde et des frontières. Beau programme. On est loin de l'extraction du gaz naturel russe et on s'en félicite. Le Gazprom œuvre à Nantes et est affilié à la Fédération des ASTI, association de solidarité avec toutes et tous les immigrés. Notre pays a toujours eu une culture d'accueil et il est important que nous soyons vigilantes et vigilants à ce que ce soit toujours le cas, quelle que soit la manière dont les autres pays agissent. Doit-il y avoir des conditions pour héberger la misère du monde? Et si oui, lesquelles? Eh bien, c'est justement là-dessus que nous souhaitons nous attarder ce soir, au moment où une certaine loi a beaucoup fait parler d'elle. Pour en discuter avec moi ce soir, je reçois Tiffaine Bou. Bonsoir Tiffaine.
Bonsoir.
Heureux, on a déjà entendu ta voix, mais je te représente. Tiffaine, tu es militante au Gazprom, une association qui existe maintenant depuis plus de 50 ans et qui lutte notamment pour l'égalité des droits entre les personnes étrangères et françaises. Avant de rentrer dans le vif du sujet qui est la loi qui vient d'être promulguée, faisons d'abord connaissance avec le Gazprom. Quelle est sa vocation et quelles actions ou activités elle propose?
Alors, comme tu l'as bien rappelé, donc le Gazprom, c'est une association nantaise de lutte pour l'égalité des droits et pour la liberté de circulation des personnes et pour l'ouverture des frontières. On propose différents ateliers au sein du Gazprom, notamment celui de la permanence juridique qui a lieu tous les lundis. Donc on accompagne les personnes dans leur démarche administrative, notamment pour l'obtention de titres de séjour. On propose également des ateliers de français qui ont lieu tous les mercredis soirs et les jeudis après-midi. Il y a aussi une pause kawa et un groupe femmes qui se retrouve en non-mixité le vendredi. Ensuite, concernant le fonctionnement du Gazprom, on a, c'est bien sûr une association qui est à but non lucratif, donc sans salariés, et qui œuvre de manière horizontale, c'est-à-dire que toutes les décisions sont prises collectivement et les responsabilités sont partagées. Concernant les événements, nous avons eu ce week-end par exemple un groupe de camarades du Gazprom qui a relayé du coup l'appel national de la commémoration. C'est, ça a eu lieu à Nantes samedi matin, à Médiathèque, et on a eu... durant cet événement, en fait, on commémore la mémoire des personnes qui sont décédées en mer en rejoignant les côtes européennes et pour du coup penser et toujours ne pas oublier surtout ces personnes-là. Il y a eu du coup des expositions, des prises de parole, des témoignages, musique et voilà, et plein d'autres choses en tout cas.
Et cette date en février, c'est justement c'est pour commémorer le 6 février 2014, me semble-t-il.
Oui, c'est ça. Mais à Nantes, on a décidé de le faire le 3 février parce que c'était un samedi et donc c'était plus accessible pour les personnes pouvoir se libérer.
Parce que cette date-là, j'ai relu, je me suis réintéressée à l'histoire, c'était quand au moins 15 migrants se sont noyés en tentant d'atteindre la plage de Tarajal à Ceuta et que la garde civile espagnole leur avait tiré dessus pour crever leur bouée. Qui puissent atteindre les côtes.
C'est ça, 15 personnes qui sont décédées et puis tant de disparus, on les compte même pas. Mais voilà, c'est suite à ce massacre, à cette noyade qu'il y a eu en 2014 que depuis en 2019, les collectifs, un collectif du coup des familles de ces personnes qui sont décédées ont décidé de relayer en fait cet appel et de créer cet événement, la commémoration qui a lieu tous les ans.
La commémoration, retenez ce terme. Alors, tu as anticipé ma deuxième question, puisque je voulais parler du fonctionnement interne de la structure, parce que, à mon avis, ça en dit souvent long sur la crédibilité du discours qu'elle peut porter. Donc, tu as parlé d'horizontalité, de bénévolat, de but non lucratif. Donc, là, on comprend bien l'idée. Et pour en finir avec la présentation du Gazprom pour nos auditrices et nos auditeurs, est-ce que tu peux me dire qui compose l'association ? Donc, il n'y a pas de salariés, il n'y a que des bénévoles, si je comprends bien. Est-ce qu'il y a une typologie dans les profils ?
Pas vraiment. Les personnes qui sont Gazprom ont des milieux, je dirais, des milieux sociaux différents. Après, bien sûr qu'on lutte tous pour... on a tous en fait la même ligne politique, donc voilà, on a des valeurs communes forcément, donc on est contre le racisme, on est contre le sexisme, contre toute l'LGBT-phobie, on est pour l'ouverture du coup des frontières, pour la libre circulation des personnes et tant d'autres choses, mais voilà, c'est vrai qu'on s'y retrouve pas mal finalement, c'est peut-être plus aussi un entre-soi militant forcément.
C'est les valeurs en commun.
Exactement.
Alors j'ai cru comprendre que tu étais titulaire d'un Master 2 en droit et membre de la commission juridique du Gazprom, et je m'en réjouis car je souhaitais justement aborder sous l'angle juridique la loi qui a été promulguée la semaine dernière sous le nom de loi pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration. Est-ce que tu peux peut-être déjà nous faire un historique sur les lois sur l'immigration qui ont été votées en France, disons, sur ces 50 dernières années ?
Oui, alors ça ne va pas être parfait parce que je ne suis pas très bonne élève pour ça. Mais
qu'on puisse avoir
oui,
une idée.
Oui, bien sûr. C'est qu'il me semble que dans les 40 dernières années, il y a eu une vingtaine de lois concernant l'immigration et c'est juste énorme. Et il n'y a pas d'autres thèmes en France qui ont
autant fait l'objet de lois.
C'est ça, oui.
Ça fait une loi tous les deux ans,
surtout concernant une minorité en fait en France. Ouais, c'est ça.
Donc on se rend compte que c'est un sujet récurrent dans la société française, alors que de nombreuses études montrent que l'immigration dans un pays apporte globalement plus de positifs que le contraire. Pourquoi tu penses que c'est un sujet récurrent en France et pourquoi est-il toujours formulé de telle sorte à faire peur aux Françaises et aux Français ? Alors que tu viens de le dire, c'est une partie minoritaire de la population.
Je pense qu'il y a tant de raisons pourquoi on pointe beaucoup du coup l'immigration et les personnes immigrées. Je pense que c'est aussi pour toujours leur relayer en fait un fardeau commun à la société, et en fait on cherche un responsable et c'est un peu la bonne poire, c'est facile. Exactement, en fait ce sont des personnes qui n'ont pas vraiment, enfin déjà qui n'ont pas le droit de vote dans notre pays, donc qui ne peuvent pas s'exprimer, et donc elles viennent aussi parfois de pays qui ont un fonctionnement politique totalement différent, donc c'est aussi des personnes qui sont peut-être parfois apolitisées dans notre pays et qui ne vont pas forcément s'intéresser à la politique parce qu'on a des cultures différentes et en tout cas une manière différente de s'intéresser à ce genre de choses. Et donc forcément, puisque les personnes n'ont pas le droit de s'exprimer, et c'est devient beaucoup plus facile en fait de leur porter en fait toute la misère d'un pays.
Oui, parce qu'on fait souvent des amalgames, enfin on entend souvent des amalgames dans les médias sur immigration et délinquance, par exemple.
Oui, bien sûr, par exemple. Bah, c'est bien un sujet de la loi, d'ailleurs, qui est très très dur, en fait, envers les personnes immigrées qui sont considérées comme étant délinquants. Notamment, si les personnes, en fait, sont titulaires d'un casier judiciaire, elles pourront se voir refuser, du coup, le renouvellement d'un titre de séjour ou encore leur retrait. Il faut savoir que c'est en cas de délit, donc c'est-à-dire à partir de 3 ans d'emprisonnement. Mais qu'est-ce qu'un délit ? Nous, on a eu par exemple aussi le cas d'une personne à l'association qui a été en fait pris pour recel de téléphone. Donc c'est-à-dire qu'il avait acheté un téléphone qui était volé, mais il ne le savait pas. Et donc voilà, contrôle d'identité, il se fait prendre pour recel. Et donc là, si ça avait été après cette loi-là,
de la loi.
Exactement, il aurait pu
perdre son titre de séjour.
Exactement.
Donc cette peur, elle a l'air volontairement cristallisée autour de ce sujet pour soit peut-être fédérer les masses dans des buts électoralistes, ou soit pour éviter de s'attaquer peut-être à régler des vrais sujets plus préoccupants dans la société française. Qu'est-ce que dit cette loi sur notre pays et notre culture historique de terre d'accueil ?
Eh bien, cette loi aujourd'hui, donc il faut savoir qu'il y a 35 articles, soit un tiers, qui ont été censurés par le Conseil constitutionnel. Mais en tout cas, dans les dispositions qui étaient à l'origine dans la loi, donc pas dans le projet de loi, mais qui ont été insérées par notamment le Sénat, par la droite sénatoriale, il y avait notamment des dispositions en fait qui étaient contraires, qui visaient mettre en péril le droit du sol. Donc le droit du sol. C'est donc un fondement historique de la République française. Il a été instauré en 1889 sous la Troisième République. Il n'a jamais été modifié, il n'a jamais été en tout cas supprimé, même sous le régime de Vichy.
Il fait partie de notre code civil.
Exactement, il fait partie du code civil, il est à l'article 21-7. Et voilà, en plus on a eu...
On a une experte du droit parmi nous.
C'est ça.
Précis.
Puis donc voilà, le projet en fait, voulait mettre en place deux mesures qui allaient mettre fin à ce droit du sol, notamment du coup pour les enfants nés de parents étrangers. Donc, parce qu'aujourd'hui les enfants nés sur le sol français de parents étrangers peuvent demander à l'année durant leur majorité la nationalité française. Et donc c'est une mesure en fait visée à supprimer cela, mais en fait le Conseil constitutionnel l'a
fait sauter.
Exactement. Et sinon à Mayotte, il y avait aussi des dispositions assez particulières par rapport à ce droit du sol, comme notamment des conditions défavorables aux personnes.
Je me suis perdu un petit peu dans tous mes papiers.
Des conditions défavorables, par exemple, en imposant la résidence aux parents étrangers de l'enfant né en France. Par exemple, les parents étrangers devaient avoir vécu à Mayotte pour tant d'années. Voilà. Donc c'était un durcissement en fait, de ces conditions-là.
Avant de poursuivre cette discussion passionnante, je vous propose, Tiphaine, de faire une pause musicale avec les Berruriers Noirs, qui écrivaient en 1985 « Salut à toi ». On se retrouve tout de suite après.
Salut à toi, oh mon frère. Salut à toi, peuple khmer. Salut à toi, l'Algérien. Salut à toi, le Tunisien. Salut à toi, Bangladesh. Salut à toi, peuple grec. Salut à toi, petit indien. Salut à toi, punk iranien. Salut à toi, rebelle afghan. Salut à toi, le dissident. Salut à toi, le chilien. Salut à toi, le petit malien. Salut à toi, le mohican. Salut à toi, peuple gitan. Salut à toi, l'éthiopien. Salut à toi, le tchadien. Salut à vous les partisans. Salut à toi chaud et allemand. Salut à toi le vietnamien. Salut à toi le cambodgien. Salut à toi le japonais. Salut à toi le thaïlandais. Salut à toi le laotien. Salut à toi le coréen. Salut à toi le polonais. Salut à toi l'irlandais. Salut à toi l'européen. Salut à toi le mongolien. Salut à toi le hollandais. Salut à toi le portugais. Salut à toi le mexicain. Salut à toi le marocain. Salut à toi le libanais. Salut à toi le pakistanais. Salut à toi le philippin. Salut à toi le jamaïcain. Salut à toi le guyanais. Salut à toi le togolais. Salut à toi le guinéen. Salut à toi le guadeloupéen. Salut à toi le congolais. Salut à toi le sénégalais. Salut à toi l'afro-cubain. Salut à toi le portoricain. Salut à toi la haute volta. Salut à toi le Nigeria. Salut à toi le Gaboni. Salut à toi le vieux ch'timi. Salut à toi Che Guevara. Salut au comité de soldats. Salut à tous les hommes libres. Salut à tous les apatrides. Salut à toi la Vertaga. Salut aussi à la Panda. Salut à toi le punk anarchiste. Salut à toi skin communiste. Salut à toi le Liberia. Salut à toi le Sri Lanka. Salut à toi le Sandiniste. Salut à toi le légendiste. Salut le mouvement des jeunes arabes. Salut à toi Guatemala. Salut le PK du contingent. Salut à toi le Chotopan. Salut à toi peuple Kanak. Salut à toi Tchécoslovaque. Salut à tous les dragons. Salut à toi qui est que bon. Salut à toi jeune malgache. Salut à toi le peuple bac. Salut à toi qui est au violon. Salut à toi les Morocons. Salut à toi le Yougoslave. Salut à toi le voyou slam. Salut à toi le Salvador. Salut à toi le Molodoy. Salut à toi le Chinois. Salut à toi le Zaïrois. Salut à toi l'Espagnol. Salut à toi le Ravachol. Salut à toi le Hongrois. Salut à toi l'Iroquois. Salut aussi à tous les Gosses. Des îles maudites jusqu'à l'Écosse. Salut à vous tous les Azous. Salut à la jeune garde rouge. Salut à toi le peuple corse. Salut aux filles du Crésor. Salut à toi la Vache-Kiri. Salut à Lorraine et Arthur. Salut à toi peuple nomade. Salut à tous les Kamawas. Salut à toutes les Vertigoles. Salut aussi à Yuri Brainer. Salut à toi l'handicapé. Salut jeunesse du monde entier.
La police vient nous chercher.
C'est sympa ce petit, ce petit pimpon. Ouais. C'était Salut à toi des Berruriers Noirs, titre sorti en 1985 qui faisait déjà l'éloge de l'accueil de toutes les nationalités et de toutes les différences. Nous sommes en compagnie de Tiffaine Bou, militante au Gazprom à Nantes pour la deuxième partie de notre entretien. Je rappelle que le Gazprom, c'est le groupe d'accueil, de solidarité, de partage, de révolte pour l'ouverture du monde et des frontières, dont l'un des buts principaux est l'égalité des droits entre les personnes étrangères et françaises. Avant la pause musicale, tu as retracé pour nous, Tiffaine, l'historique des lois sur l'immigration. Tu nous as dit qu'il y en avait eu une vingtaine en 40 ans, moins de 40 ans, soit une tous les deux ans. permets-moi de t'introduire à présent la dernière en date, de vous introduire à vous, auditeurs, auditrices, parce que Tiffaine, elle en est bien informée. Le 1er février 2023, le premier projet de loi a été déposé par le gouvernement sur le bureau du Sénat. Le 14 novembre, il a été voté par le Sénat après avoir été remanié et durci, faisant passer le nombre d'articles de 27 à 90. Le 11 décembre, par le biais d'une motion de rejet, il a été refoulé par l'Assemblée nationale. 18 et 19 décembre, une commission mixte paritaire, 7 députés et 7 sénateurs, s'est réunie à l'initiative d'Elisabeth Borne pour parvenir à une nouvelle version du texte, reprenant très largement celle votée par le Sénat. Le 26 décembre, le Conseil constitutionnel a été saisi. Le 25 janvier 2024, et c'est là que j'étais positive dans notre petite introduction de l'émission, les 9 sages ont censuré 35 articles sur les 86. Tu en as déjà parlé, Tiffaine. Un an d'obstination de notre ministre de l'Intérieur pour, au final, se faire reprendre sur 40% du texte. Tiffaine, toi qui as de solides bases de droit, peux-tu nous expliquer ce qu'est un cavalier législatif, puisque 32 des 35 articles censurés ont été considérés comme tels ?
Oui, alors un cavalier législatif, c'est une disposition qui n'a rien à voir de près ou de loin avec l'ensemble du texte. Donc ce serait par exemple là sur... la loi asile et immigration, on a eu notamment des dispositions concernant les conditions des aides sociales qui étaient allouées, voilà, ça, au bout de 5 ans. Au bout de 5 ans de séjour régulier sur le territoire, donc par exemple c'était le cas pour les APL. Et donc pour l'aide du coup personnalisée au logement. Et donc cette mesure-là n'avait rien à voir avec la loi asile et immigration. Puisqu'elle ne parle pas de l'asile ou l'immigration à proprement parler, et donc ça a été retoqué par le Conseil constitutionnel.
Donc elle voulait le déplacer à 5 ans, alors qu'actuellement c'est de combien ?
Actuellement c'est de 6 mois, il me semble. 6 mois, et donc voilà, c'était pour le déplacer à 5 ans, pour les étrangers ne travaillant pas. En revanche, ceux qui travaillaient devaient attendre 3 mois avant de se voir allouer les APL.
Donc ça, c'est des traitements différents, oui, déjà en fonction du fait qu'on travaille ou qu'on ne travaille pas. Et puis c'est très différent, surtout, de ce qui est réservé à la population française.
Oui, exactement. Et puis, il y avait d'autres mesures comme ça par rapport au fait de durcir le droit à l'hébergement, notamment pour les personnes qui étaient visées d'une OQTF. Donc c'est une obligation de quitter le territoire français. Elle se voyait aussi le refus du droit à l'hébergement d'urgence. Et on sait qu'aujourd'hui, il y a tant de personnes qui vivent déjà à la rue. Enfin, ce sont vraiment des chiffres qui sont accablants. Et c'est totalement un traitement déshumanisant pour ces personnes. Donc voilà, donc pas de possibilité du coup d'appeler le 115. Puis on sait déjà qu'aujourd'hui...
Il est déjà saturé.
C'est ça, c'est une catastrophe. Tous les lundis soirs, on a des personnes qui viennent, qui sont à la rue.
Mais s'il est saturé, c'est à cause des immigrés.
Mais oui, c'est ça en fait, tout
voilà,
simplement.
On s'explique.
Si on entre encore plus dans le détail de cette loi et des polémiques créées autour de certains articles, même si nous ne pouvons pas héberger toute la misère du monde, comme le disait un certain Michel Rocard, et non Corentin, sous Mitterrand en 1989, on se doit quand même de respecter notre code civil, tu l'as dit, c'est le fondement du droit civil français, c'est-à-dire l'ensemble des règles qui déterminent le statut des personnes dans son livre premier. Tu as parlé tout à l'heure du droit du sol. Est-ce que il y a d'autres articles qui contrevenaient à ce code civil dans le projet de loi qui était formulé par la commission mixte paritaire ?
La plupart des articles, c'est ceux qui sont plutôt dans le CESEDA.
Alors le CESEDA, tu vas pouvoir nous expliquer ce que c'est.
C'est le code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Et donc, c'est tout le code en fait qui va régir toute la vie en fait des personnes qui sont des personnes immigrées. Et donc oui, il y a plusieurs articles du CESEDA qui allaient être du coup modifiés par cette loi et qui vont être modifiés par cette loi.
Alors le CESEDA de lui-même, il contrevient complètement au code civil, c'est-à-dire qu'on ne traite pas sur le même territoire des personnes qui sont françaises et des personnes qui ne le sont pas.
C'est pourtant constitutionnel, apparemment. Mais cette loi, elle a aussi fait entrer, encore une fois, la préférence nationale, en fait, parce qu'on voit qu'il y a totalement un traitement qui est différent, en fait, entre les personnes qui sont de citoyenneté française et les personnes qui n'ont pas cette citoyenneté-là. Et Oui, enfin, ça respecte pour autant la Constitution, puisque le Conseil constitutionnel, lorsqu'il a censuré certaines des dispositions, ce n'est pas pour un motif de fond. Il n'a pas dit en fait que les dispositions étaient contraires à la Constitution. Il a seulement dit que c'était des cavaliers législatifs. Et donc, ça laisse aussi. On peut aussi légitimement se poser des questions et voir en fait quel va être l'avenir par rapport à ces dispositions-là et également en fait aux lois immigration concernant l'immigration. Par exemple, j'ai encore lu aujourd'hui que le 1er février, les sénateurs centristes ont redéposé des projets de loi concernant l'immigration et voulant intégrer en fait ces cavaliers législatifs là pour faire une loi qui serait du coup plus homogène et qui engloberait toutes ces dispositions afin que ce ne soit pas considéré comme un cavalier législatif par.
Alors ce serait des amendements à la loi qui a été promulguée ou ce serait encore une nouvelle loi ?
Ce serait une nouvelle loi. Ce serait une nouvelle loi.
Donc on aurait deux lois en à peine deux ans quoi.
C'est ça.
Okay. Un rythme moyen, du coup, si on suit les 20 dernières années.
Ouais, bah là, deux en deux ans, on double le rythme. Hein. Alors, un autre article qui a été retoqué était relatif à l'AME, l'aide médicale d'État, qui, je le précise, permet aux étrangers en situation irrégulière de bénéficier d'un accès aux soins. J'ai lu il y a quelques jours que notre nouveau Premier ministre, hein, parce que ce n'est pas celui qui a déposé le projet de loi sur le bureau du Sénat, il voulait faire passer cet article par voie réglementaire. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que cela signifie concrètement ?
Oui, alors on a soit la voie législative, soit la voie réglementaire. La voie législative, c'est lorsque le texte il émane du Parlement. Là, en revanche, en voie réglementaire, c'est... lorsque, du coup, le texte, il sera édicté par le gouvernement et il doit du coup être conforme à la loi parce qu'en fait on a en France la pyramide des normes, c'est la pyramide de Kelsen et donc en fait tout en haut on a la Constitution en fait, puis ensuite on a les lois, donc tout ce qui est du procédé législatif, puis ensuite on a les règlements, décrets, etc.
Donc c'est-à-dire voilà. C'est-à-dire que dans une loi
en fait par exemple dans le CESEDA, donc de certaines dispositions qui viennent en fait d'une loi par exemple qui a été votée par le Parlement, on pourrait avoir mis comme précision cet article où cela sera précisé par voie réglementaire. Donc ensuite ça laisse aussi une compétence au gouvernement pour pouvoir régir certaines dispositions par voie réglementaire parce que c'est totalement légal.
C'est la porte ouverte, finalement. En fait, c'est pas mal de laisser quelques cadres flous, un petit peu flous dans tous les articles, pour pouvoir régler les choses plus tardivement de cette manière. Bon, c'est bien de découvrir un petit peu comment fonctionne notre pays et sa législation. Alors, comme au Gazprom, vous êtes attaché à l'égalité de traitement entre Français et étrangers, quels étaient les articles qui ne respectaient pas ce fondement de la Déclaration universelle des droits de l'homme ? Précisons que nous parlons ici des étrangers en situation régulière.
Je ne sais pas, je ne saurais pas vraiment dire lesquels violaient la DDHC, mais en tout cas, il y avait certainement ceux
C'était pas une colle, hein, s'il y en
oui.
a pas.
Mais c'était surtout, en fait, il y a beaucoup de choses qui nous ont choquées, en fait, mais surtout concernant le droit à la santé des personnes, et du coup concernant l'AME, qui du coup l'aide médicale d'État, c'est un dispositif qui permet aux étrangers en situation irrégulière de bénéficier d'un accès aux soins, et ça couvre à 100% les frais. Et en fait, oui, donc la loi, dans les dispositions qui ont été ajoutées par la droite sénatoriale, proposait en fait de supprimer cette AME et de créer l'AMU. C'était en fait l'aide médicale d'urgence qui listait seulement certains soins qui seraient remboursés. Et enfin, finalement, pas vraiment remboursés, puisque ça instaurait aussi le fait de mettre en place un forfait annuel à payer pour ces personnes.
Donc, fallait être à l'article de la mort ou c'était comment ça ?
Alors, forcément, c'est que des choses qui profitent à tout le monde, c'est-à-dire seulement pour les vaccins réglementaires. Donc voilà, c'est vraiment dans un objectif en fait, de santé publique et pas vraiment de santé de la personne en tant que telle. et par exemple aussi les soins liés à la grossesse. Donc voilà, ça laisse aussi un peu un goût amer et on se demande du coup quelles seront en fait les dispositions de ce règlement qui émanera de ce fameux gouvernement. Et du coup, ouais, ça nous laisse un peu une petite idée. Peut-être que ce sera repris comme idée, ce sera à voir dans les mois à venir, mais en tout cas, on sait que ce sera avant cet été.
Parce que vous pensez au Gazprom que la voie réglementaire risque d'être utilisée pour plusieurs autres choses que l'aide médicale d'État ?
C'est pas vraiment concerté sur le sujet. On n'a pas trop discuté entre nous pour l'instant, mais
ça peut être une crainte.
Ça peut être une crainte, tout à fait.
Alors maintenant que la loi a été promulguée et publiée au Journal officiel le 27 janvier dernier, qu'est-ce qui concrètement, donc dans les articles qui restent et qui n'ont pas été censurés, qu'est-ce qui va changer pour les immigrés en France ? Quels sont les droits qui ont été restreints ?
Ça touche...
Tiffaine, regarde dans ces fiches tellement il y a de choses.
C'est un bazar, mais c'est surtout tout ce qui touche en fait au titre de séjour. On a notamment un titre de séjour. D'ailleurs, je trouve pas ma feuille.
Mais parce qu'il y a beaucoup trop de choses qui sont restreintes.
Ah voilà, c'est ça. un titre de séjour en fait de travail pour les métiers en tension. Donc c'est-à-dire que les métiers en tension, en fait, ce serait par exemple ceux qui concernent le BTP ou alors la restauration. Et donc en fait, on a aussi là des conditions qui sont qui sont restreintes en fait pour obtenir ce titre de séjour-là, comme notamment avoir 12 fiches de paie sur 24 mois de présence sur le territoire. On a également le préfet qui devra s'assurer en fait de la nature de ce travail, donc qu'il soit bien un travail en fait issu d'un métier en tension. Il faut également que la personne elle soit intégrée et qu'il y ait voilà cette insertion sociale. Il faut que la personne respecte les valeurs et les principes républicains, les fameux, et qu'elle respecte aussi l'ordre public. Donc toutes ces conditions là en fait elles permettraient d'avoir du coup ce titre de séjour de travail donc concernant les métiers en tension, mais ça veut dire que le jour où ces métiers ne sont plus en tension, qu'est-ce qu'on fait ? Probablement qu'on retirera en fait ce
oui,
ce
on ajoute une condition supplémentaire à l'obtention du titre de séjour.
Donc c'est encore une fois dans un point de vue utilitariste.
Tu le dis, c'est très dépendant de la situation qu'on vient de vivre, parce que finalement, ces métiers sont en tension essentiellement depuis la crise du Covid.
C'est ça.
On s'est aperçu que les conditions de travail n'étaient pas idéales et les Français s'en sont détournés.
On fabrique de la chair à patron, hein, ni plus ni moins. Hein, c'est des emplois que les gens ne veulent plus faire. Et...
C'est ça, les Français s'en détournent.
On profite de la misère des gens.
Tout à fait. Puis il y a une autre chose en fait, qui peut-être, à mon échelle, me touche plus parce que ce sont des personnes que je côtoie en fait tout simplement, c'est donc les étudiants étrangers. Eux seront obligés en fait à déposer une caution obligatoire avant d'entrer à l'université. Cette caution-là, elle leur sera rendue une fois qu'ils auront fini leurs études.
Et qu'ils rentreront chez eux.
Et qu'ils rentreront chez eux surtout, parce qu'on ne veut pas d'eux ici. Et puis, il y a une deuxième chose, c'est qu'ils devront tous les ans, il y aura une obligation de justifier du caractère sérieux de leurs études, chose qui n'est jamais demandée aux étudiants français. Donc on pourra se demander aussi, qu'est-ce qu'un caractère sérieux ?
Voilà. Synchronisation, c'est incroyable. Ça a été répété toute l'après-midi.
Et c'est voilà. Très subjectif.
Exactement, très subjectif. Et donc, ce sera aussi, pareil, le préfet, sûrement, qui devra juger si la personne est assez assidue en cours. Donc, sur la base aussi, peut-être, des remarques des professeurs, enfin voilà, d'un bilan. Je ne sais pas comment ça se sera mis en place.
Mais ce sera à l'appréciation du préfet.
Exactement. Donc voilà, il y a ce genre de choses qui changeront, mais surtout une chose très très importante, c'est que là, la loi, elle fabrique aussi vraiment une usine à expulser les sans-papiers, quoi, parce que on a aussi une plus grande facilité pour retirer en fait les titres de séjour, notamment pour les étrangers qui seront du coup considérés comme délinquants, comme je disais tout à l'heure. Et donc en fait, l'étape du coup du chemin à suivre, ce serait refus du renouvellement du titre de séjour ou alors retrait du titre de séjour, donc personne en situation d'irrégularité, donc OQTF, donc passage au CRA, donc centre de rétention administrative, et puis ensuite expulsion, quoi.
Alors c'est bien que tu parles du centre de rétention administrative, puisque le Gazprom s'investit, on l'a vu, non seulement auprès des hommes et femmes immigrés, mais il mène aussi des luttes via des groupements de collectifs. Alors quelles sont les luttes que vous menez actuellement à Nantes? Et ce sera certainement notre dernière question.
Alors à Nantes, il y a deux collectifs. Il y a le collectif Anticra et, l'Interco Anticra. Le Gazprom est bien sûr allié de ces deux collectifs.
Donc le CRA, on reprécise, centre de rétention administrative.
C'est ça. Et l'idée, c'est que on s'oppose en fait à la création du centre de rétention administrative de Nantes, qui aura probablement lieu, qui sera probablement en fait créé à côté de la maison d'arrêt de Carquefou. Donc ça en dit long aussi sur le type d'établissement dont il s'agit, quoi.
C'est une prison qui ne dit pas son nom.
C'est ça. Mais quand même rétention. Mais après, il y a déjà 25 CRA en fait en France. C'est énorme. Et je crois que c'est 20 en France métropolitaine et 5 en Outre-mer. C'est un centre dans lequel il s'agit d'enfermer les personnes qui sont sans papier pour une courte durée, puisque la finalité en fait, c'est que ces personnes retournent dans un pays. C'est pas forcément le pays d'origine en plus, c'est le pays qui décide de réaccueillir en fait ces personnes. Mais
est-ce que vous pouvez nous dire en deux mots, en quelques phrases, les conditions de détention dans ces centres?
Oui, on a lu plusieurs témoignages, et c'est vrai que dans ces centres-là, c'est l'accès aux soins est très 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 compliqué. Je crois que c'est une visite du médecin qu'il faut attendre au moins 72 heures pour avoir une visite du médecin. Je n'ai plus les autres choses en tête, mais je sais que, c'est par exemple aussi des endroits qui sont surchargés de monde, surpopulation. Et je sais qu'aussi les associations, en fait, certaines associations demandent d'avoir un droit de regard aussi pour comprendre et voir et visiter surtout les personnes qui sont enfermées dans ces CRA.
Je discuterai bien encore des heures avec toi, mais toutes les bonnes choses ont une fin. Merci beaucoup, Tiffaine Bou, d'avoir répondu à mes questions dans l'œil politique sur Prune ce soir. Je rappelle que tu es adhérente au Gazprom, ce groupe d'accueil, de solidarité, de partage et de révolte pour l'ouverture du monde et des frontières, au sein duquel tu milites, notamment pour l'égalité des droits entre les personnes étrangères et françaises sur notre sol. Chères auditrices, chers auditeurs, vous ressentez de la colère et vous vous sentez impuissant. Vous ne savez pas comment lutter contre les injustices que vous constatez. Stéphane Hessel écrivait « Indignez-vous ». Puis engagez-vous. Voilà la solution. Passez l'indignation et la colère qui en découlent. Mettez votre énergie au service de l'engagement et de l'action. N'attendez plus, rendez-vous au Gazprom 24 rue Fourré, dans le quartier des Olivettes, et participez à leurs nombreuses activités. Oui, Tiffaine?
Ou alors rendez-vous également à la manifestation mensuelle contre le CRA. Ce sera donc tous les premiers samedis du mois au Miroir d'eau.
Voilà. Parfait. Et lorsqu'on commence à limiter la liberté pour certains, c'est la liberté de toutes et tous qui recule. Prenons notre part dans ce qui survient sur cette terre, soutenons-nous les uns les autres au lieu de nous montrer du doigt ou de détourner notre regard. Portons notre attention sur ce qui importe vraiment. Partageons nos visions d'humanisme et de solidarité entre les peuples. Ne laissons pas nos dirigeants, lorsqu'ils sont irresponsables, nous mener droit dans le mur. La force des citoyens et citoyennes unis est bien plus puissante et durable que leur mandat. Sentons-nous vivants. Indignons-nous, engageons-nous, organisons-nous et agissons à l'unisson.
Merci Tiffaine et Perrine d'avoir décortiqué cette loi et pour ce riche échange. On se retrouve après une petite pause musicale pour la dernière partie de notre émission. C'est parti.
Ils sont marrants cette année, c'est difficile de deviner dès la rentrée. Lequel se fera arrêter pour les scouts qui leur a piqué? Lequel sera incarcéré pour avoir trop dealé? Moi en bon prof, je suis préparé. Un peu de maths et de français, du kickboxing, du karaté. Tant pis pour la géographie, ceux qui connaissent de l'Italie, c'est juste vaguement les spaghettis et Rocco Siffredi. Au programme de cette année, en français faudrait arriver à lire tout un livre en entier. Mais même d'Amand et Marc Lévy, y'a plus de 100 mots de vocabulaire. On sera toujours à lire la préface même après l'hiver. Et mon voisin me voyant me dira bande de feignants, alors vous êtes déjà rentrés, vous savez pas ce que c'est de bosser. Avec vos semaines de 20 heures, vous bossez bien moins qu'un facteur. Et dire que je paye tous vos congés, et puis vous êtes même pas bronzés. Sans copie à corriger, 2-3 Prozac, 8 cafés. Mais je l'entends quand même dire d'en bas, je compte même pas la sécurité de l'emploi. Tu es aux lunettes, c'est mon surdoué. Il sait écrire son nom sans faute, il sait compter. Waouh, bah c'est pas mal pour un troisième, il faut savoir s'en contenter. C'est clair qu'un intello pareil, il va se faire raqueter. 35 élèves cette
cette année. Je leur ai demandé ce qu'ils voulaient faire comme métier. J'ai dit Zidane, 15 Amel, Bette et 9 Booba. Un original qui veut faire vigiler avocat. Il a dû voir chez Courbet que c'était pas mal d'être avocat si jamais t'allais en prison. Ils croient qu'ils auront leur brevet en regardant l'île de la tentation. Merci pour tout ce que fait pour eux la télévision. Et mon voisin, le même qui hier me dira bande de fonctionnaires. Alors vous êtes déjà rentrés, vous savez pas ce que c'est bosser avec vos semaines de 20 heures. Vous bossez moins qu'un contrôleur et dire que je paye pour mon gamin. Il a redoublé son CE1, vite les bulletins à remplir. 2-3 Prozac et 8 Kir. Mais je l'entends quand même dire d'en bas. Je compte même pas la sécurité de l'emploi. Les directives du ministère nous imposent faire des réunions plus régulières. On en fait même pour planifier les prochaines réunions ou pour décider de ce qu'on peut donner sans risque comme sanction. Fini les notes de temps en temps. Faut juste leur envoyer des SMS d'encouragement. L'évaluation c'est pas toi qui l'a fait. Eux ils disent si t'es cool. Je préfère encore qu'ils me donnent des notes plutôt que des coups de boule. Impossible de les faire redoubler. Les pauvres chéris, faut surtout pas les perturber. Les programmes faut les simplifier, y'a trop de leçons, ça les assomme. Ils ont même proposé de donner le bac avec la prochaine PlayStation. Et mon voisin, vous le connaissez, me dira bande de surpayés. Vous foutez rien de la journée, vous devez pas être fatigué. Avec vos semaines de 20 heures, vous bossez bien moins qu'un chômeur. Et puis pas de chèque et pas de rendement, c'est pas pour ce que vous faites vraiment. Les parents à rencontrer, 2-3 Prozac, 8 Grand Marnier. Et vu leur investissement, l'année prochaine ira pas en s'arrangeant. Faudrait peut-être songer à les adopter. Venir l'élever le matin, le soir les coucher. Et peut-être dormir à leur place. Pour qu'ils restent éveillés en classe. La prof de gym n'est pas venue, s'est fait agresser dans la rue. Mais bon, il avait averti, ils veulent pas de sport avant midi. Ils peuvent genre pas fumer en classe. Et ça déjà c'est dégueulasse. Entre chaque tour, une bière, un joint. C'est quand même pas des gros besoins. Cette fois-ci c'est décidé, mes gosses iront dans le privé. J'ai beau regarder à deux fois, je la vois pas tant que ça, la sécurité de l'emploi.
Nous voici de retour pour la dernière partie de l'œil politique sur Prune 92 FM. Je vois Gabi qui trépigne d'impatience à l'idée de couvrir de louange notre cher ministre AOC. Gabi, c'est à toi.
Critique, décalé, engagé. C'est le billet d'humeur de l'œil politique.
Alors, rentrons dans le vif du sujet, hein, car on n'a pas forcément tout le temps que je voudrais, hein, mais je vais en parler. Je vais parler remaniement ministériel. Alors, la jambe gauche du macronisme a officiellement été dégagée. Bon, après, si vous aviez encore des doutes, déjà, permettez-moi de vous le dire, hein, vous n'avez aucune intelligence politique. On est passé de 42 ministres à 14. Et évidemment, ils sont tous de droite et en partie issus du sarkozysme. La petite surprise du gouvernement, c'était Rachida Dati au ministère de la Culture. C'était censé être la star. Elle est là pour faire parler d'elle, aussi bien en guise de diversion médiatique au service du gouvernement que pour se placer dans la course à la mairie de Paris. Mais Mediapart en a décidé autrement. Here comes a new challenger. Amélie Oudéa Castéra, notre AOC à nous. Bon, je vais pas vous mentir, ça a beaucoup moins de gueule que Alexandria Ocasio-Cortez. Notre AOC à nous, c'est plus dans la tradition de la bourgeoisie française corrompue et déconnectée. Par exemple, Amélie Oudéa Castéra, déjà ministre des Sports à l'époque, au cours d'une audition devant le Parquet National Financier, a déclaré par rapport à sa rémunération de 500 000 euros annuels en tant que directrice générale de la Fédération Française de Tennis, « Si je rapporte ma rémunération actuelle au volume d'heures que chaque semaine je m'enfourne en bossant jour, nuit, week-end, je ne suis pas bien payé. » Alors je suis désolé, hein, mais déjà si t'es obligé de bosser jour, nuit et week-end toute une année, c'est que t'es vachement mal organisé. Mais soit. Disons qu'elle a bossé 24 heures sur 24, 16 jours sur 7, toute une année à 500 000 euros. Ça fait quand même près de 60 euros de l'heure. Bon, à ce prix-là, on aurait au moins dû avoir un Français en deuxième semaine à Roland-Garros. Peu après, sûrement en guise de récompense, elle est nommée ministre de l'Éducation, des Sports, des Jeux Olympiques et Paralympiques. Le lendemain, même, Mediapart révèle que les trois enfants d'AOC sont scolarisés dans le problématique collège Stanislas. Le jour même, elle se défendra dans la presse en accusant la professeure du public de son premier enfant d'absentéisme. Fait bien évidemment mensonger et prouvé, mais elle dira ne pas avoir menti. C'est juste la vérité qui lui a donné tort. En même pas 24 heures, elle a réussi l'exploit de dépasser Blanquer le Beluga et Attal le Fou d'Abaya dans l'incompétence. Un exploit. Et depuis, chaque jour, Mediapart rajoute une petite pierre à l'édifice désormais immense des controverses d'AOC. car en plus d'avoir placé ses enfants dans une école homophobe intégriste catholique, Amélie les a aussi placés dans des classes non mixtes, tout ça en contournant Parcoursup. Après, on s'étonne que les bourgeois ne voient pas de problème dans des organes comme Parcoursup, vu que ça, c'est pour nous, hein, les gueux. Je crois qu'on ne mesure pas la chance qu'on a d'avoir un média comme Mediapart. Bien évidemment, la bourgeoisie monte au créneau pour défendre l'une des leurs. C'est ainsi qu'on se retrouve avec les Duhamel, membres de la famille d'Amélie Oudéa-Castéra, un empire familial d'analystes politiques au service du pouvoir, pour défendre l'indéfendable. Alors qu'une grande partie des députés de la majorité ont lâché la ministre et pensent que c'est déjà fini pour elle, Macron fait tout pour conserver son ancienne camarade de classe à ses côtés. Un sacré entre-soi, encore et toujours. Surtout qu'on le sait, hein, Emmanuel Macron, il aime bien garder près de lui celle qu'il a rencontrée à l'école. Mais Manu compte toujours sur Oudéa-Castéra pour faire des étudiants des bons petits républicains qui marchent au pas pendant le SNU, qui portent l'uniforme et qui apprennent la Marseillaise qu'ils chanteront bien évidemment après avoir déclamé les grands textes. Mais ils risquent de se heurter à une population à bout qui n'a plus rien à perdre. Pour citer la ministre elle-même, même au sein du Parlement, on voudrait faire de moi le symbole d'une caste privilégiée à combattre et à abattre. Pour une fois, elle a compris quelque chose. Elle représente tout ce qu'on déteste, tout ce qu'on combat et tout ce que les gens ne veulent plus. Le problème, c'est que ce combat, il risque d'être rude, d'être violent, et il risque d'être surtout très compliqué. Il ne se fera pas par les urnes, hein. Le peuple n'a plus les moyens d'attendre encore plus de 3 ans pour changer de président. Chaque jour, des hommes et des femmes meurent à cause de la pauvreté dans ce pays, et la destruction des services publics comme Amélie Oudéa-Castéra est en train de le faire avec l'école, mais également comme est en train de le faire le gouvernement avec l'hôpital, sera la cause de milliers et de milliers de morts. Il ne nous reste plus grand-chose des acquis sociaux, ils sont en train de fondre comme neige au soleil. À quand un grand mouvement social commun pour faire plier le gouvernement ? Une chose est sûre, dans ce contexte, j'ai hâte de voir arriver les JO, hâte d'être dans 179 jours pour voir la France rayonner.
Et voilà, c'est déjà la fin de votre émission L'œil politique. Merci à notre invité Tiphaine de nous avoir parlé de ce vaste sujet qui est cette loi dégueulasse, hein, on peut le dire. J'avais pas écrit, mais là j'avais envie. Là. Merci à tout le reste de l'équipe, Perrine à l'interview, Suvan à la réal, Gabi pour la chronique. Une petite pensée pour Quentin qui nous a quittés pour rejoindre la capitale de la Gaule. On espérera qu'il rentrera vivant de cette épreuve. Et pour Yelena qui doit se trouver actuellement dans un TER quelque part en Loire-Atlantique. Big up, on espère que tu t'en sors. Nous nous retrouvons le lundi 4 mars à 19h pour la prochaine émission. D'ici là, vous pouvez réécouter cette émission ainsi que les précédentes en podcast sur le www.prune.net. On vous laisse avec l'émission Passage en Force qui va nous parler de basket. Super transition après avoir parlé des JO. Voilà, bonne soirée à toutes et à tous. Merci beaucoup.
Salut.
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 C'était L'œil politique. Retrouvez le podcast de l'émission sur prune.net.